Mais on va aller tout de suite à Nelly Briand. Nelly Briand, c'est notre stratège en matière de réseaux sociaux. Bonjour Nelly.
Bonjour Bernard.
Parce que la première chose dont je voulais te parler, là, c'est à la suite donc de cet article de Fanny Lévesque ce matin, à l'effet que la ministre Sonia Lebel, ministre de la Justice, est en train de préparer une nouvelle loi sur la protection des renseignements personnels. Et dans ce projet de loi, elle prévoirait, dans le fond, mettre fin aux petits caractères en bas de page, puis les textes interminables là, qu'il faut approuver, il faut donner notre accord. On comprend rien, on dit oui. Mais en fait, les compagnies nous demandent d'avoir accès à nos données personnelles. Puis, regarde, des fois, ça fait trois pages. Puis c'est du charabia d'avocat.
Ouais, et puis là, il faut aller chercher la politique, par exemple, de Facebook, qui est quand même difficile à trouver. C'est plusieurs pages, et découpé en morceaux.
Fait que là, dans le projet de loi qui s'en vient, apparemment, elle mettrait fin à ça. Mais moi, je suis curieux de savoir ce que tu en penses, parce que les avocats, eux autres, ils vont vouloir encore protéger les sociétés, puis les sociétés vont vouloir encore mettre la main sur nos données personnelles. Fait que je sais pas, y a-tu des pays qui ont réussi à rendre ça clair, ces textes-là, puis à les raccourcir pour que le commun des mortels les comprenne?
Ben oui, en fait, c'est inspiré du modèle du RGPD, là, du Règlement général sur la protection des données, qui a été mis en branle en Europe, OK, et qui demande cette clarté-là. Donc, probablement qu'après ça, il peut y avoir des textes de loi plus complexes là, pour protéger les intérêts de chacun, parce qu'on le sait que ça peut devenir nécessaire là, dans certains cas. Par contre, il faut que ce soit clairement évoqué. Là, ça va être quoi la façon d'évaluer si c'est assez clair ou si c'est assez vulgarisé pour le commun des mortels ou le commun des utilisateurs? Ça, on verra bien. Il y a aussi le fait que, puis c'est pas seulement ça qu'elle veut ajouter dans la mouture de cette nouvelle loi, elle veut aussi que le consentement soit à la pièce. Parce que on en a parlé avec vous, Bernard, des fameux cookies, des fameux témoins de connexion, hein, quand on va sur un site web, puis que souvent on nous demande acceptez-vous ou pas. Et quand vous acceptez, ben vous acceptez tout, c'est pas à la pièce. Vous pouvez pas dire, ben j'accepte que tu utilises ma géolocalisation, par exemple, pour Google Maps, parce que je veux avoir le service qui m'indique mon chemin, mais je veux pas que tu l'utilises pour faire du profilage commercial, ou je veux pas que tu le revendes à un tiers. On peut pas faire ça à la pièce. Il y a certains sites qui le font, mais tu sais, c'est leur bon vouloir, là. Normalement, on peut pas. Et c'est ce qu'elle veut obliger, ce consentement à la pièce, de pouvoir sélectionner ce qu'on veut que les compagnies fassent ou pas avec nos données, ou si on peut avoir le droit de retirer l'utilisation de nos données. Ça aussi, elle ajoute ça. Elle veut.
Mais tu y crois? Attends un peu, là. Nelly, regarde bien, là. J'imagine, là, on arrive sur un site et puis là, t'as 3-4 questions où ils nous proposent de donner notre consentement pour telle partie, mettons, du site, puis pas telle partie. Si vous... Écoute, dans le quotidien de notre utilisation de l'Internet, je me demande si ça va vraiment changer quelque chose.
Ben j'ai l'impression que c'est un peu d'autant plus que Google a déjà annoncé des mesures là-dessus là. Moi ce que je trouve problématique dans tout ça là, même si je trouve que c'est un beau vœu pieux, c'est que premièrement ça risque de nuire aux plus petits davantage parce que ça coûte cher faire ça. Parce que à partir du moment où vous devez justement permettre cette sélection, ça veut dire que vous développez quelque chose d'un petit peu plus maison. Vous faites pas affaire avec des choses automatiques qui existent et qui proviennent souvent des États-Unis ou d'ailleurs où il y a pas ces lois-là. Deuxième chose, c'est que il y a rien pour obliger les entreprises à protéger les données. Et c'est là que je m'inquiète sur l'annonce de Madame Lebel, parce que oui, on veut plus de clarté, on veut plus de on veut savoir ce qu'on fait avec nos données, mais en même temps, on veut surtout qu'elles soient protégées, parce que toute cette mouture-là ne garantira pas que mes données vont être assez protégées par les futurs Desjardins, les futurs Revenu Québec, ou peu importe l'entreprise ou l'organisation. Est-ce qu'elle en fera? Un Cambridge Analytica pourrait se passer encore une fois demain, après-demain, tout le temps, parce qu'il n'y a rien qui oblige les entreprises à investir pour augmenter la sécurité.
C'est irréaliste.
On leur demande d'investir pour augmenter la clarté, mais je suis pas sûre que c'est là la principale urgence actuellement. D'autant plus que encore là, même si on fait cette loi-là, bon, elle dit qu'elle veut rehausser suffisamment et significativement les sanctions pécuniaires. Ben, ça veut dire quoi? On l'a vu avec Facebook, là, les amendes, c'est assez salé aux États-Unis. Est-ce que c'est assez pour convaincre des grosses entreprises du GAFA, par exemple, à ne pas utiliser les données? Autre élément, Bernard, qui est quand même important, c'est que comme on peut refuser que nos données soient utilisées pour du profilage commercial, ben là, on voit beaucoup de médias et beaucoup de sites qui font leurs frais avec ça, qui vont avoir des problèmes là de peut-être même de rentabilité là.
Donne-moi des exemples.
Ben exemple, là, je veux dire, même il y a eu dernièrement un média là qui demandait carrément aux gens enlevez vos bloqueurs de publicité parce que vous nous enlevez un revenu, parce que souvent vous avez une gratuité, vous allez lire des articles de la presse ou du Devoir, peu importe. Et en fait, ce qui paye ces articles-là, c'est votre exposition et votre profilage à des publicités. Donc, à partir du moment où vous dites en allant sur le site de la presse, non, je ne veux pas être profilé pour de la publicité, vous lui enlevez un revenu. Et comme on peut se douter que...
Si on y enlève le revenu, ben on risque d'enlever éventuellement des journalistes, c'est ça que tu dis.
Exactement. Mmh. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse aux conséquences aussi de ces lois-là. C'est plus complexe que ça. Et de toute manière, je pense que le diable est dans les détails. Fait que même si Mme Lebel annonce qu'il va y avoir une remouture de cette loi-là, moi, j'ai des doutes sur le fait que ça va changer quelque chose de manière significative et pertinente pour les gens qui nous écoutent à la maison et ou les Québécois en général. Là.
D'accord. Comme tu dis, voyons le projet de loi. Hein?
Oui.
Attendons de voir le projet de loi. Parlons un petit peu de dépendance aux écrans.
Oui.
C'est un fléau.
Oui.
C'est un fléau.
Non. Je suis pas d'accord, moi. En fait, justement, il y a plusieurs...
c'est pas un fléau.
Non, en fait, c'est ce qui se passe. Actuellement, on a l'impression que c'est un fléau, Bernard, parce qu'il y a eu un forum lundi sur l'utilisation des écrans et la santé des jeunes, qui était présidé par le ministre délégué à la santé aux services sociaux, là, Lionel Carman, où ils ont invité une soixantaine d'experts pour définir quelle était cette dépendance aux écrans et pour lutter contre la dépendance. Et là, c'est un peu terrible parce que dans les jours qui ont suivi, il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé, beaucoup d'articles qui ne montrent qu'un seul côté de la médaille. Et il y a plusieurs chercheurs qui sont sortis depuis, dont une qui a même assisté à cet événement-là et qui mentionne que le seul consensus qui a été entendu sur cette question-là, c'est sur le fait que ça pouvait être positif lorsque c'était modéré, encadré et adéquat.
C'est modéré, encadré et adéquat.
Oui.
C'est parce que si c'est modéré, encadré et adéquat, il n'y a pas de dépendance.
Ben en fait, c'est déjà le mot dépendance est problématique. Ok. Là, il y a Magali Dufour, d'ailleurs, ça fait plusieurs années qu'elle fait des sorties là-dessus. C'est une professeure de psychologie qui travaille en dépendance et qui mentionne que c'est un mot utilisé à toutes les sauces et qui ne devrait pas être utilisé dans ce cas-ci. Pour elle, un problème de dépendance, c'est quelque chose qui est diagnostiqué cliniquement. C'est 55 à 60 heures. Sur un même jeu, par exemple, une perte de contrôle, une obsession, des conséquences avec une sévérité élevée dans la vie d'une personne. Alors, le mot dépendance, c'est pas à prendre à la légère. C'est pas quelqu'un qui passe trop d'heures sur Instagram à discuter avec ses amis-là. Là, il faut faire cette nuance-là selon cette chercheuse-là. Il y a aussi le fait que c'est sûr qu'en ce moment, le temps d'écran moyen de nos jeunes est de 24 heures par semaine, alors qu'on prescrit un 14 heures. Mais là, il y a des chercheurs qui disent c'est trop. Il y en a d'autres qui se demandent si c'est réaliste, cette prescription. Là. Et il y a surtout M. Carsanti, qui est aussi un chercheur, Thierry Carsanti, qui mentionne que c'est pas une variable pertinente, le temps d'écran. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait sur les écrans. Et le problème, c'est qu'actuellement, il n'y a pas d'études là-dessus. Et ils ont répertorié près de 13 000 études sur les relations entre les écrans et ce que ça peut avoir comme effet sur notre vie. Et on n'arrive pas à des constats qui sont probants. Même si jamais vous faites référence à cette fameuse étude qui dit que l'exposition aux écrans augmente l'anxiété et la dépression, en fait, cette étude-là a un problème méthodologique parce que quand on fait des études, souvent, on pose plein de questions sur votre état de santé mentale, comment vous vous sentez, puis vos habitudes de vie. OK?
Oui.
Là, on a posé des questions à des jeunes et on a vu que l'état, mettons, de bien-être était affecté en rapport à l'exposition aux écrans à 0,4%. Alors on a 0,4% de chance d'avoir un effet sur notre bien-être.
Tu trouves qu'on est trop alarmiste? Moi, je vais te dire, Nelly,
c'est que, c'est qu'en fait, c'est le même taux que de manger des pommes de terre. Donc, c'est juste qu'on n'a rien scientifiquement pour dire que c'est seulement l'exposition aux écrans le problème.
Nelly, je te parle pas d'études scientifiques, là, je te parle d'observations empiriques. Là.
Mm-hmm.
Un enfant qui veut plus décoller de son écran, qui, si tu le décolles de son écran, te pique des crises, devient quasiment une autre personne. En tout cas, si c'est pas une dépendance, puis ce que je te décris là, là, j'ouvrirais les lignes, là, puis t'aurais des milliers de parents qui en témoigneraient là. Tu comprends?
Je peux vous dire que ce que vous me décrivez là, j'ai vu ça tous les jours simplement parce qu'un enfant ne voulait pas quitter la garderie. Est-ce qu'on peut dire que la garderie est un problème? Non. Les enfants agissent comme ça quand ils ont quelque chose d'agréable. C'est normal. Et c'est sûr que la tablette et les jeux sont faits pour être très agréables. C'est sûr que je dis pas que c'est bon d'être sur Fortnite tout le temps. Il y a des choses, il y a des comportements, il y a des éléments en ligne qui sont pas adéquats à certains
âges. Nelly, on va faire un test. OK? On fait un test. T'es willing, là? T'es habitué, là? Ouais, 790-9850. Les parents qui nous écoutaient, là, ça vous tente d'appeler 790-9850 ou encore par texto 98985 ou encore courriel Drainville commercial 985fm.ca. Est-ce que vous jugez? Puis je vous demande pas si vous êtes médecin, scientifique, là. Je vous demande, avec votre gros bon sens, est-ce que vous pensez que votre enfant a un problème de dépendance à son écran? Puis comment vous jugez ça? Comment vous en êtes venu à cette conclusion-là? C'est quoi les deux, trois symptômes, on va dire, de ce que vous jugez à être une dépendance problématique? Ou encore, peut-être que vous êtes d'accord avec Nelly, puis dans le fond, peut-être que vous allez me dire, on en fait grand cas. C'est vrai qu'il aime son écran, mais je suis peut-être pas prête à dire qu'il est dépendant. Au même titre qu'on peut être dépendant à un moment donné de l'alcool ou d'une drogue ou je ne sais trop quoi. Alors juste, je vous laisse l'occasion de le faire, là. On a une couple de minutes devant nous.
Parce que vous savez, moi, j'aurais pu être diagnostiquée dépendante de mon téléphone à roulette dans les années 80 parce que j'aimais beaucoup parler à mes amis.
OK, bouge pas. J'ai Steve qui nous appelle. Bonjour, Steve.
Oui, moi, je pense que le problématique, c'est que les parents ne tiennent pas leur bout. Un enfant, tu lui donnes un pouce, il prend un pied. C'est les parents qui cèdent à l'écran, qui, à un moment donné, l'enfant sait que s'il tape du pied, ben, il va l'avoir, son iPad. Fait que c'est ce que tu décrivais tantôt en disant que les enfants deviennent méconnaissables. Mm-hmm. C'est que l'enfant sait qu'en faisant une crise comme ça, ben, il va avoir ce qu'il veut. Fait que c'est plate. Mais ce qui arrive en 2020, il faut que les parents tiennent leur bout. C'est pas facile, mais il faut qu'ils s'occupent de leur enfant au lieu de les plugger devant une tablette.
Merci, Steve, pour l'appel.
C'est d'autant plus difficile que ça sert de donner l'écran à son enfant quand, que, par exemple, on est en transition ou qu'on a quelque chose d'autre à faire. Donc, ça devient une arme à double tranchant, là, parce que l'enfant, il sait justement que quand il est problématique, il va avoir un écran. Donc, ce que vous mentionnez, je pense que c'est quand même un bon point.
Juste avant d'aller à Yannick, j'ai beaucoup, beaucoup de textos, là. Mon 5 ans, s'il regarde plus que 30 minutes de télé, d'écran, il devient agressif, me dit un parent. Un autre me dit, mes 4 enfants sont dépendants, surtout mes 2 ados, si on leur enlève leur sel. C'est la catastrophe. Je vous jure que c'est une dépendance. Un autre me dit, bonjour, je suis alcoolique et les jeunes ont la même relation avec leur écran que j'ai avec l'alcool. Ça, c'est Stéphane qui me dit ça. On s'en va rejoindre Yannick. Bonjour, Yannick.
Bonjour.
Et vous, vous en pensez?
Écoutez, je suis vraiment pas d'accord avec ce que madame dit. Situation, je suis un parent monoparental séparé, 50-50 au niveau de la garde des enfants. Chez moi, il n'y a pas de télévision. En fait, tu veux regarder la télévision, tu dois mettre un DVD, et ça depuis 7 ans. Et puis, mon fils m'a déjà appelé. Chez maman, ils ont accès à tablette, ordinateur, téléphone. Ils ont accès à toute la technologie. Et puis, mon fils m'a déjà appelé. Il dit, papa, viens me chercher chez maman parce que je ne peux plus me séparer de ma tablette. Lorsqu'elle me l'enlève, je pique des crises et je suis fâché contre elle. Et c'est des vraies crises, là. On s'entend pas, là. C'est pas une crise de bacon, là, d'enfant là, qui est gâté pourri ou quoi que ce soit. C'est un enfant qui est plus capable de se séparer d'un écran. Et puis, c'est comme ça maintenant, tous les enfants, hein, regardez juste les parties de Noël qu'on vient de passer, là, c'est exactement la même chose. Chez moi, on joue dehors, on n'a même pas le temps. Chez moi, maintenant, depuis décembre, on a Netflix et j'ai rentré Internet aussi avec Netflix. Et puis, mes enfants n'écoutent pas la télévision. Ils pensent plus à aller jouer dehors. On fait du ski, on fait du patin, on fait plein de sports à l'extérieur, juste même pour aller marcher quand il neige. Mais lorsqu'ils deviennent chez maman, et c'est, je le sais, c'est automatique, c'est la tablette et c'est les jeux électroniques. Et j'ai des appels parfois, il fait super beau dehors, en plein été ou quoi que ce soit. Ils sont renfermés à l'intérieur et ils font de la tablette.
Merci Yannick pour l'appel.
Mais on peut sortir de cette dichotomie-là parce que ce que vous dites, c'est vrai. C'est pas qu'il faut pas encourager des activités concrètes, là. Tout est une question d'équilibre. Après ça, un enfant qui utilise une tablette pour des mauvaises raisons, a une mauvaise relation avec la tablette, c'est à travailler, c'est clair. Mais de là à parler de dépendance, la dépendance, c'est quelque chose qui est grave. Et surtout que des fois, l'intensité provient de vouloir rester en contact avec des, ses amis, par exemple. Dans le temps des fêtes, c'est souvent ça. Le jeune, il veut chatter avec ses meilleurs amis, il veut pas perdre ce contact-là. Et la dépendance, elle est presque plus située au niveau de son besoin de socialisation en dehors du cercle familial que l'appareil.
Nelly, il faut que j'aille à Annie juste avant de terminer. Annie, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, je voulais vous parler de mon garçon de 15 ans et j'invite votre invité à venir séjourner avec nous le temps qu'elle veut et de voir par elle-même. On a un enfant qui faisait de l'équitation, qui faisait du sport, qui faisait du water polo, qui faisait absolument toutes les activités. Il a commencé son secondaire en secondaire 1. On nous a obligés à lui procurer la tablette, le fameux iPad, dans les collèges privés à Montréal, probablement dans partout. Tous les collèges privés exigent d'avoir le iPad. À un moment donné, il va avoir une responsabilité des écoles dans ça, parce que depuis ce temps-là, ce n'est plus le même enfant. Et à un moment donné, tu te tannes, tu te fatigues, tu es fatigué des disputes, tu es fatigué du criage, de l'agressivité extrême, les mauvais mots. Nous, on ne dit aucun mauvais mot, on est des gens instruits, là, on s'exprime bien. Et c'est les mauvais mots qu'ils apprennent, ils jouent à des jeux avec des gens qu'on ne connaît pas. Il n'y a pas de limite d'heure. Moi, je l'ai amené au centre de dépendance de Montréal parce que c'est quelque chose d'insoutenable. Là. On a fait ça l'an dernier, il est en secondaire 2.
Est-ce que ça l'a aidé?
Il était pour manquer son année scolaire, très, très difficile. Et la psychologue qui était là m'a confirmé que les jeux vidéo sécrètent dans le cerveau la même substance que la cocaïne. C'est dans ces mots-là qu'elle me l'a dit. Et je vous invite à regarder sur YouTube les conférences de Deborah Davis. C'est une scientifique, Deborah Davis. C'est une scientifique aux États-Unis. Elle a PhD sur PhD sur PhD. C'est quelqu'un d'extrêmement instruit dans le sujet. Ça fait des années qu'elle sonne l'alarme.
Merci.
Et elle est là sur YouTube, vous pouvez regarder, et on voit les images du cerveau, là, on voit les images du cerveau dans ses conférences, là. Elle donne ses conférences partout, mais il n'y a pas d'écoute parce que je pense que c'est une trop grosse machine. Et aussi pour les écoles, à un moment donné, vont avoir une responsabilité. Ouais. Tu vas chercher ton garçon à l'école, et tous les garçons sont assis, la tête penchée dans leur écran, dans la salle d'attente, là, dans le corridor d'attente, là. Il n'y a personne qui remarque que tu es rentré.
Annie.
Ils sont tous la tête dans l'écran. C'est criminel. Pour moi, c'est criminel, cette responsabilité-là. C'est pas d'autre chose que ça.
Merci.
Ils ont tué cette génération-là.
Annie, merci, ouais. Merci. Parce que là, vraiment, on dépasse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nelly, tu as suscité tout un débat.
Ben oui.
Et on pourra le
Ça va être à suivre parce qu'il y a une autre journée, le 20 mars. Il y a d'autres experts qui vont être là. Donc, on aura l'occasion d'en reparler.
Justement, j'allais dire, parce qu'à voir le nombre de réactions,
c'est un sujet chaud.
C'est très, très chaud. Nelly Brière, merci beaucoup.
Ça fait plaisir. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, dans un instant. Bonne ou mauvaise idée d'avoir un défibrillateur cardiaque à la maison?